Un moment, il n'y eut que le bruit des sabots et le cri occasionnel d'un oiseau. Mais quand la direction que suivait Suan devint évidente, à l'ouest du chemin qui revenait au camp, Mirel se montra aussi agitée que s'il avait été assis sur des orties. Les indices de Suan n'étaient peut-être pas si mauvais que ça, tout compte fait. Quand Suan s'orienta une nouvelle fois vers l'ouest, entre deux collines bizarrement tordues qui semblaient se pencher l'une vers l'autre, Mirel tira sur les rênes de son cheval.
« Dans cette direction, il y a une cascade, »
dit-elle en désignant l'est.
« Pas très importante, même avant la sécheresse, mais très jolie. »
Suan s'arrêta aussi, se retourna et sourit. Que pouvait bien cacher Mirel? Dévorée par la curiosité, Egwene regarda la sœur verte et sursauta, en voyant une goutte de sueur perler sur son front, à l'ombre de son grand chapeau. Oui, savoir ce qui pouvait faire transpirer une Aes Sedai était hautement intéressant.
« Je pense que nous verrons des choses plus intéressantes sur le chemin choisi par Suan. Pas toi? Allons, suis-nous. »« Tu sais tout, pas vrai ?»
marmonna Mirel, tandis que les trois cavalières avançaient dans le défilé. Désormais, elle suait à grosses gouttes.
« Tout? Comment as-tu ?»
Elle se redressa sur sa selle, les yeux rivés sur le dos de Suan.
« Elle! C'est ta créature depuis le début !»
Une indignation étrange, les choses étant ce qu'elles étaient.
Comment avons-nous pu être si aveugles? Mais je ne comprends pas quand même. Nous avons été si prudentes. Quand on veut garder un secret,
lâcha Suan, méprisante,
on n'essaie pas d'acheter des poivrons pièces si loin au sud.
Au nom de la lumière, qu'étaient des poivrons pièces? Et de quoi parlaient ces deux femmes? Mirel frissonna. Trop secouée pour songer à remettre Suan à sa place en lui rappelant qui était supérieur à qui, elle se contenta de s'humecter les lèvres.
Mère! Tu dois comprendre pourquoi j'ai fait ça. Nous avons fait ça. »
À son ton paniqué, on aurait cru que Mirel, en chemise de nuit et pieds nus, devait affronter la moitié des rejetés.
« Ce n'est pas seulement parce que Moiraine l'a demandé, ni parce qu'elle était mon amie. Je déteste les laisser mourir. Oui, ça me révulse. Le pacte que nous avons conclu est dur pour nous, parfois, mais encore plus dur pour les autres. Il faut que tu comprennes. Il le faut. »
Au moment où Mirel allait tout révéler, Suan tira sur les rênes de sa monture et se retourna sur sa selle. Egwene l'aurait bien giflé.
« Mirel, ce serait peut-être plus facile pour toi si tu nous montres le chemin. »
dit froidement, ou avec une nuance de dégoût, l'ancienne chère d'Amirline.
« Coopérer te vaudra peut-être une certaine clémence. »« Oui, oui, bien sûr. »
Au bord des larmes, aurait-on juré, la sœur verte prit la tête du trio. Se laissant glisser à l'arrière, Suan sembla soulagée durant un bref instant. Egwene crut qu'elle allait exploser. Quel pacte? Avec qui? Et laisser mourir qui? Qui était ce « nous »? Shiryam et son groupe? Si la chère d'Amerline avait exprimé sa frustration, Mirel n'aurait pas manqué de s'en apercevoir. Et dévoiler son ignorance, dans des circonstances pareilles, ne semblait pas très avisé. Une ignorante qui se tait passe pour une femme très sage. Encore un proverbe. Et sur ce thème, il y en avait un autre. Gardez le premier secret, et vous devrez en garder 10 autres. Egwene n'avait pas d'autre solution que suivre le mouvement sans rien dire. Mais Siwan ne perdait rien pour attendre. Après tout, elle n'était pas censée lui cacher des choses à elle. Serrant les dents, Egwene fit en sorte d'avoir l'air patiente, détachée et sage. À une lieue à l'ouest de la route du camp, Mirel gravit le flanc d'une colline, sur les versants de laquelle poussaient des pins et des lauréoles. Au sommet, presque plat, deux grands chênes empêchaient toute autre végétation de pointer le bout de son nez. Sous les branches basses de ces géants, Egwene découvrit 3 tentes au toit pointu en toile rapiécée. À côté, non loin d'une charrette, des chevaux étaient attachés à une corde tendue entre 2 piquets, et 5 fiers destriers, un peu à l'écart, étaient également attachés, chacun ayant son propre piquet à distance raisonnable de celui du voisin. En robe d'équitation couleur bronze, Nisao Dachen se tenait sous l'auvent d'une des tentes, comme si elle attendait des invités. À ses côtés, Sarin Oigan, dans une des vestes vert-olive que les champions semblaient apprécier, paraissait lui aussi guetter quelque chose. Petit homme chauve à la barbe noire, le champion de Nisao restait tout de même plus grand qu'elle. Un peu plus loin, 2 des 3 champions de Mirel regardaient les cavaliers approcher. Egwene reconnut Croy Makin, un type blond et lancé, et Noël Dromand, un costaud brun qui arborait une longue barbe sans moustache. Personne ne semblait le moins du monde surpris. À l'évidence, un des champions, chargé de monter la garde, avait dû prévenir ses compagnons. Rien de ce qu'Egwene découvrait ne justifiait tous ses secrets. Idem pour la nervosité de Mirel. Cela dit, si Nisao attendait des invités, pas des intrus, pourquoi ses mains tordaient-elles anxieusement le devant de sa robe? On aurait juré qu'elle se serait sentie plus à l'aise si Elaïda avait approché d'elle alors qu'elle était isolée de la source. Deux femmes pointèrent la tête au coin d'une tente et reculèrent promptement. Mais pas sans qu'Egwen les ait reconnues. Nicolas et Arina. Soudain, la jeune femme se sentit mal à l'aise. Dans quoi Siouan l'avait-elle entraînée? Sans trahir la moindre nervosité, Siouan mit pied à terre et lança.
« Fais-le sortir, Mirel. Tout de suite. »
Un ton impitoyable, celui de quelqu'un qui se venge avec jubilation.
« Il est trop tard pour le cacher. »
Au prix de ce qui semblait être un grand effort, Mirel réussit à simplement froncer les sourcils face à cette agression. Toujours dans la retenue, elle se débarrassa de son chapeau en secouant la tête, descendit de cheval en silence, se dirigea vers une des tentes et y entra. Nisao la suivit du regard, ses yeux déjà très larges au naturel devenant ronds comme des billes. De fait, elle semblait pétrifiée.
« Pourquoi es-tu intervenu tout à l'heure ?»
demanda Egwene, personne à part Siouan étant assez près pour entendre.
« Je crois qu'elle allait tout avouer, de quoi qu'il puisse s'agir. Moi, je suis dans le noir. C'est quoi un poivron pièce ?»« Très populaire au Chienard et au Malkier, »
répondit Siouan à voix basse.
« J'ai eu vent de tout ça après avoir quitté Aelden ce matin. Il fallait que je pousse Mirel à prendre la tête, parce que je ne connaissais pas le chemin. Pas précisément, en tout cas. Il n'aurait pas été très malin de le lui faire savoir, pas vrai ? Pareillement, j'ignorais tout pour Nisao. Je croyais que Mirel et elle ne s'adressaient pas la parole. »
Siouan regarda la sœur jaune et secoua la tête, l'air agacé. Passer à côté d'une information, le genre de faiblesse qu'elle ne se pardonnait pas.
« Sauf si je suis devenu aveugle et stupide. Qu'est-ce que ces deux-là peuvent... »
Comme si elle avait quelque chose de pourri dans la bouche, Siouan eut une moue dégoûtée. Visiblement, elle cherchait un mot précis sans le moindre succès.
« Les voilà !»
dit-elle soudain, en tirant Egwene par la manche.
« Tu vas voir par toi-même. »
Mirel sortit la première de la tente. Vêtu d'un simple pantalon, des bottes aux pieds, un homme la suivit, se baissant pour passer sous le rabat. Une épée à la main, il arborait une véritable constellation de cicatrices sur sa poitrine modérément velue. Beaucoup plus grand que Mirel et que tous les champions, il portait autour du front un mince bandeau de cuir qui tenait sa chevelure grisonnante. Plus grisonnante que la dernière fois qu'elle l'avait vue, songea Egwene. Mais c'était bien Lan Mandragoran, un homme de pierre de la tête aux pieds. Des pièces du puzzle se mirent en place dans la tête de la jeune femme, même si l'image ne se reconstitua pas totalement. Lan avait été le champion de Moiraine, l'Aes Sedai à l'origine du départ de Chandemonde de Rand et de ses amis, un événement qui semblait remonter à une éternité. Mais Moiraine était morte en éliminant Lan Fear, et Lan s'était volatilisé quelques minutes plus tard. Pour Siouan, tout ça était peut-être clair comme de l'eau de roche, et Gwen, elle, restait dans le brouillard. Mirel posa une main sur le bras de Lan et lui murmura quelques mots. Il tressaillit comme un cheval nerveux, mais son visage de pierre ne se détourna pas d'Egwen. Au bout d'un moment, cependant, il hocha la tête, pivota sur lui-même et s'éloigna un peu. Son épée tenue à deux mains, il la leva au-dessus de sa tête, se dressa sur la pointe d'un seul pied et s'immobilisa. Un moment, Nisao le regarda comme s'il étudiait elle aussi un puzzle. Puis son regard croisa celui de Mirel et, ensemble, elle tourna la tête vers Egwene. Ensuite, loin d'approcher de la jeune femme, elles se rejoignirent et murmurèrent entre elles. Au début, en tout cas, car le dialogue tourna à un monologue de Mirel, Nisao écoutant en écarquillant les yeux, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles.
« Tu m'as entraîné dans cette histoire !»
grogna-t-elle enfin.
« J'étais folle de t'écouter !»« Ça devrait être intéressant !»
dit Siouan, quand les deux femmes se tournèrent vers Egwene et elle. La façon dont elle avait prononcé le mot « intéressant » n'augurait rien de bon. En avançant, Mirel et Nisao se touchèrent les cheveux, puis la robe, histoire de s'assurer qu'elles étaient bien mises. Elle venait peut-être d'être surprise à... « À quoi bon sang ?» se demanda Egwene. Mais elle tenait à faire bonne figure.
« Si tu veux bien entrer, mère, »
dit Mirel en désignant la tente la plus proche. Plus de sueur, et juste un léger tremblement dans la voix.
« Merci, ma fille. Je préfère rester dehors. Un peu de punch au vin ?»
demanda Nisao avec un sourire. Les mains croisées, elle trahissait cependant sa nervosité.
« Siouan, va dire à Nicolas d'en apporter. »
Bien entendu, Siouan ne broncha pas. Surprise, Nisao eut comme un rictus, mais elle se reprit très vite, afficha un beau sourire et haussa le ton.
« Nicolas, mon enfant, apporte du punch. »
Nisao se tourna vers Egwene.
« Fait avec des mûres sèches, hélas, mais tonifiant quand même. Je ne veux pas de punch.
Lâcha froidement Egwene. Nicolas émergea de derrière une tente, mais sans paraître pressé d'obéir. Hésitante, elle regarda les quatre Aes Sedai en se mordillant la lèvre inférieure. Nissao lui jeta un regard dégoûté. Il n'y avait pas d'autre mot, mais elle ne dit rien. Une nouvelle pièce du puzzle se mettant en place, Egwene se sentit un peu mieux.
« Ce que je veux, ma fille, non, ce que j'exige, c'est une explication. »
Grand sourire ou non, tout ça n'était qu'une fine couche de vernis. Comme pour implorer Egwene, Mirelle tendit une main tremblante.
« Mère, Moiraine ne m'a pas seulement choisi à cause de notre amitié. Deux de mes champions étaient précédemment liés à une sœur morte, Avar et Noël. Depuis des siècles, pas une seule sœur n'a sauvé plus d'un champion. Je me suis impliqué à cause de l'esprit de cet homme, »
dit Nissao.
« Je m'intéresse beaucoup aux maladies de l'esprit. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Mirelle m'a ensuite entraîné dans tout ça. »
Mirelle gratifia la sœur jaune d'un regard noir, qui lui fut rendu avec les intérêts.
« Mère, quand l'Aes Sedai d'un champion meurt, on croirait qu'il absorbe cette mort. Puis que celle-ci le consume de l'intérieur. Il... Mirelle, je sais tout ça !»
Même si elle ne se doutait pas que les questions d'Egwene visaient très directement Gawain, Siouan et Léane lui avaient répondu, éclairant sa lanterne. « Un pacte dur pour tout le monde », avait dit Mirelle. Eh bien, elle avait peut-être raison. Quand le champion d'une sœur mourait, le chagrin la submergeait. Elle pouvait le contenir pendant un temps, le cachant au monde, mais il ressortait tôt ou tard. Même si elle s'en tirait bien en public, Siouan continuait à pleurer la nuit la perte d'Alric, tué le jour où elle avait perdu son titre. Mais que représentaient les mois de chagrin comparés à la mort elle-même? Les chroniques abondaient de récits sur des champions morts, en tentant de venger leur Aes Sedai. Un homme désireux de mourir défiait le danger, afin de trouver l'instrument de sa fin. Ce faisant, il prenait des risques trop importants, même pour un champion. Le plus terrible, aux yeux d'Egwene, c'était que ces hommes savaient ce qui adviendrait s'ils venaient à perdre leur Aes Sedai. Conscients de ce qui leur arriverait, ils ne se berçaient pas d'illusions. Rien de ce qu'ils pouvaient faire ne changerait leur destin. Quel courage fallait-il pour accepter le lien dans ces conditions? Egwene recula un peu mieux pour voir Lan. Toujours immobile, il semblait à peine respirer. Oubliant tout à fait le punch, Nicolas s'était assis en tailleur sur le sol pour observer le guerrier. Accroupi près de sa complice, Areina contemplait le spectacle avec des yeux ronds. Elle semblait encore plus fascinée que Nicolas, qui jetait de temps en temps des regards furtifs à Egwene et aux autres sœurs. Les champions, eux, s'étaient rapprochés, faisant mine d'observer l'âne, alors qu'ils veillaient en réalité sur leur Aes Sedai. Une brise brûlante fit soudain onduler le tapis de feuilles mortes qui couvrait le sol. Sans crier gare, l'âne se mit en mouvement, enchaînant les figures d'escrime si vite que sa lame se transformait parfois en un éclair argenté. Une vitesse incroyable, et pourtant, chaque mouvement restait précis comme celui d'une horloge. Egwene supposa qu'il allait arrêter, ou du moins ralentir, mais il n'en fut rien. Areina en resta bouche bée, les yeux manquant lui sortir des orbites, et Nicolas ne fut pas en reste. Comme des gosses qui regardent du sucre candi en train de sécher sur une table, elles tendirent le cou. Même les champions s'intéressaient pour de bon à l'âne, désormais. À la manière dont on surveille un lion, susceptible de charger à n'importe quel moment.
« Je vois que tu le fais travailler dur, »
dit Egwene. C'était inclus dans la méthode visant à sauver un champion. Considérant le taux d'échec et le coût personnel inévitable, très peu de sœurs consentaient à essayer. Éloigner l'homme du danger était une autre composante du protocole, mais la première étape consistait à le lier à une autre sœur. Sans nul doute, Mirelle avait pris en charge ce petit détail. Pauvre Ninevée. En apprenant ça, elle risquait fort de vouloir étrangler Mirelle de ses mains. Cela dit, elle pouvait aussi considérer d'un bon œil tout ce qui contribuait à maintenir l'âne en vie. Elle pouvait, oui. Quant à l'âne, il méritait bien son sort, puisqu'il avait accepté de se lier à une autre sœur, tout en sachant que Ninevée était prise de lui. Egwene avait cru s'exprimer clairement, en disant qu'elle savait tout ça. Mais elle avait dû laisser transparaître ses véritables sentiments, car Mirelle tenta de nouveau de se justifier.
« Mère, transmettre un lien n'est pas un crime. C'est comme une épouse qui choisit la prochaine femme de son mari, au cas où elle viendrait à disparaître. Une façon de s'assurer qu'il sera entre de bonnes mains. »
Egwene foudroya Mirelle du regard. Effrayée, la sœur recula et faillit se prendre les pieds dans sa robe. Pourtant, ce n'était pas vraiment elle que visait la jeune femme. Chaque fois qu'elle croyait avoir entendu parler de la plus étrange coutume du monde, quelqu'un déboulait avec quelque chose d'encore plus incongru.
« Nous ne sommes pas toutes des boudards, Mirelle, »
dit Siouan, très sèche.
« Et un champion n'est pas un mari, pour la majorité d'entre nous en tout cas. »
Mirelle releva fièrement le menton. Quelques Aes Sedai épousaient leur champion. Pas beaucoup, puisque les sœurs, de toute façon, se mariaient rarement. Aucune enquête sérieuse n'avait jamais été entreprise. Mais on murmurait que Mireille s'était unie à ces trois champions. Une violation des coutumes et des lois, même en éboudard.
« Ce n'est pas un crime, dis-tu, Mireille ? Quelque chose de banal ?»
Siouan semblait bouillir à l'intérieur.
« Aucune loi n'interdit de transmettre un lien. »
intervint Nissao, en s'adressant à Egwen, pas à Siouan. L'ancienne chair d'Amerline eut droit à un regard qui aurait dû la faire reculer d'un pas et tenir sa langue pendant un moment. Bien entendu, ça ne fonctionna pas.
« Ce n'est pas la question !»
s'écria Siouan.
« Même si ça n'a pas été fait depuis 400 ou 500 ans, et même si les coutumes ont changé depuis, moi, Reine et toi, vous en seriez sortis avec quelques regards réprobateurs, et peut-être un léger blâme, si vous vous étiez contenté de vous transmettre le lien. Mais vous n'avez rien demandé à Lan, pas vrai ? Il n'a pas eu le choix. Ça revient pratiquement à l'avoir lié contre sa volonté. En fait, c'est tout à fait ça. »
Le puzzle devint enfin clair pour Egwen, et elle aurait dû partager le dégoût de Siouan. Pour les Aes Sedai, lier un homme contre sa volonté était l'équivalent d'un viol. Et de fait, il avait autant de chances de résister qu'une fille de ferme coincée dans une grange par une brute de la taille de l'âne. Cela dit, les sœurs n'avaient pas toujours été si regardantes. 1000 ans plus tôt, une telle affaire n'aurait pas fait de bruit. Et aujourd'hui encore, on pouvait légitimement se demander si un homme avait conscience de ce qu'il faisait en acceptant un lien. Comme l'intrigue et le secret, les Aes Sedai élevaient parfois l'hypocrisie au niveau d'un art majeur. Mais Egwen savait combien l'âne avait résisté, avant d'admettre qu'il aimait Nineveh. Parce que son destin était de mourir, avait-il dit, et qu'il ne voulait pas faire d'elle sa veuve. Bref, le genre dit aussi que les hommes débitent, quand ils croient être de véritables parangons de logique et de raison. Quoi qu'il ait dit, Nineveh l'aurait-elle laissé partir sans le lier, si elle en avait eu l'occasion? Et avec Gawain, comment Egwen se comporterait-elle? Il avait dit qu'il accepterait le lien, mais que ferait-elle s'il changeait d'avis? Nissao voulut parler, mais elle sembla ne pas pouvoir trouver ses mots. Elle foudroya Siouan du regard, comme si tout était sa faute, puis se concentra sur Mireille.
Je n'aurais jamais dû t'écouter. Quel imbécile !
Mireille parvint à rester de marbre, même si elle vacilla un peu sur ses jambes.
Mère, je n'ai pas fait ça par intérêt personnel. Tu dois me croire. C'est pour le sauver. Dès que ce sera fait, je le confierai à Nineveh, selon le vœu de Moiraine, et...
Egwen leva une main. Comme si elle avait reçu dans la figure, Mireille se tut.
Tu veux transmettre le lien à Nineveh ?
Mireille acquiesça avec quelque hésitation. Nissao hocha vigoureusement la tête. Toujours furieuse, Siouan marmonna que corriger une erreur par une erreur revenait à commettre deux erreurs. L'âne n'avait toujours pas ralenti. Derrière lui, deux innocentes sauterelles s'envolèrent d'un buisson. Se retournant, il les foudroya en plein vol.
« Tes efforts portent leurs fruits ?»
demanda Egwen.
« Il va mieux ? Depuis combien de temps est-il avec toi ? Nous en sommes au 20e jour, mère. » Le processus peut demander des mois, et il n'y a aucune garantie de succès. Il est peut-être temps d'essayer autre chose,
dit Egwen, pensant tout haut. Plus que quiconque, c'était elle-même qu'elle avait besoin de convaincre. Dans son état présent, l'âne n'avait rien à cadeau, mais lien ou pas lien, il appartenait plus à Nineveh qu'à Mireille, et de très loin. Alors qu'elle approchait de l'âne, cependant, le doute la submergea. Toujours dans sa danse mortelle, il leva son épée et l'abattit. Quand la lame s'arrêta à quelques pouces de la tête d'Egwen, quelqu'un poussa un petit cri. La chair d'Amirline fut satisfaite que ce n'ait pas été elle qui le pousse. Sous les sourcils arqués de l'âne, deux yeux bleus brillants regardèrent fixement la jeune femme. Puis l'homme de pierre baissa son arme. Bien que lustré de sueur, il respirait tout à fait normalement.
« Ainsi, c'est toi, la chair d'Amirline. Mireille m'a parlé d'une nomination. » Mais sans mentionner de nom. On dirait que nous avons beaucoup de choses en commun, petite.
Se souvenant qu'elle était la dirigeante suprême et une Aes Sedai, Egwen s'interdit de tirer nerveusement sur son étole. Elle résista aussi à l'envie de s'unir au Saïdar. Jusqu'à cet instant, elle n'avait pas mesuré à quel point cet homme était dangereux.
L'âne, Nineveh est devenue une Aes Sedai, comme moi. Et il lui faut un bon champion.
Une des autres femmes soupira, mais Egwen ne détourna pas la tête de l'âne.
« J'espère qu'elle se trouvera un héros de légende !»
s'esclaffa l'âne.
« Il faudra ça pour supporter son fichu caractère !»
Si glacial qu'il fût, ce rire acheva de convaincre Egwen.
« L'âne, Nineveh est à Eboudar. Tu sais combien cette ville est dangereuse. Elle cherche un artefact dont nous avons désespérément besoin. Si l'âge à noir la prend, il la fera tuer pour avoir cet objet. Et si les rejetés le savent... »
Egwen avait cru voir le visage de l'âne s'assombrir. Le chagrin qui passa dans ses yeux à l'idée qu'il puisse arriver malheur à Nineveh lui confirma que son plan était le bon. Cet homme appartenait à Nineveh, pas à Mirel.
« Je t'envoie la rejoindre, afin que tu agisses comme son champion. Mère !»
lança Mirel dans le dos d'Egwen. La jeune femme leva une main pour lui intimer le silence.
« La sécurité de Nineveh dépendra de toi, Lan. »
Lan n'hésita pas et ne jeta même pas un coup d'œil à Mirel.
« Il me faudra au moins un mois pour arriver à Ibudar. Arena, celle Mandarb. »
Lan fit mine de se détourner, mais il se ravisa et leva sa main libre comme s'il voulait toucher l'étole.
« Désolé d'avoir joué un rôle dans ton départ de Deux Rivières, ou celui de Nineveh. »
S'éloignant enfin, Lan s'engouffra sous la tente dont il était sorti un peu plus tôt. Nisao, Siouan et Mirel se massèrent autour d'Egwen.
« Mère, tu ne saisis pas le sens de ce que tu viens de faire !»
halta Mirel.
« Ça revient à donner une lanterne allumée à un enfant, puis à l'envoyer jouer dans un grenier à foin. J'ai commencé à préparer Nineveh dès que je sentis le lien passer de Moiraine à moi. Je croyais avoir du temps, mais elle a reçu son châle bien plus vite que prévu. Elle n'est pas prête à assumer le lien, mère. Pas dans l'état où est l'âme. »
Non sans effort, Egwen réussit à ne pas exploser. Décidément, personne ne comprenait.
Mirel, même si Nineveh ne pouvait pas canaliser un filament de pouvoir.
C'était le cas, sauf quand elle était furieuse.
Eh bien, ça ne ferait aucune différence, et tu le sais. Idem pour son aptitude à assumer le lien. Jusque-là, tu as été incapable d'assigner l'âne à une mission assez importante pour qu'il veuille rester en vie.
C'était l'élément clé du protocole. Celui qui fonctionnait mieux que tous les autres.
Pour lui, la vie de Nineveh est plus importante que tout. Il l'aime, Mirel, et il est aimé d'elle. Voilà qui explique.
Commença Mirel, mais Nisao lui coupa la parole.
Non, c'est faux. Elle l'aime peut-être, ou elle le croit, mais il ne lui rend pas ses sentiments. Les femmes poursuivaient déjà l'âne de leurs assiduités, quand il n'avait pas de barbe au menton. Elles l'attrapaient dans leur filet, mais pour un jour ou un mois. Même si c'est difficile à croire aujourd'hui, il était très beau. Cela dit, il semble avoir conservé son charme.
Nisao jeta un regard de biais à Mirel, qui plissa le front et s'empourpra légèrement. Elle ne réagit pas davantage, mais c'était suffisant.
Mère, toute femme qui croit avoir capturé le cœur de l'âne Mandragoran s'apercevra tôt ou tard qu'elle a passé un licol au coup du vent.
Egwen ne put retenir un soupir. Certaines sœurs pensaient qu'il y avait un moyen de plus pour sauver un champion dont le lien avait été brisé par la mort de son Aes Sedai. Le pousser dans les bras, enfin, dans le lit, d'une femme. Dans ces conditions, pensait-elle, aucun homme ne se serait concentré sur la mort. Mirel, semblait-il, s'était aussi occupée de cette possibilité. Comme elle envisageait de transmettre le lien, elle n'avait au moins pas épousé l'âne. Si Nineveh ne savait jamais rien de tout ça, ça ne serait pas un mal.
« On verra bien »,
répondit distraitement Egwen à Nisao. Areina est en train de fermer les harnais de sel de Mandarb, qui se laissait faire en levant fièrement la tête. De toute évidence, ce n'était pas la première fois qu'Areina s'occupait du grand étalon noir. Debout près du plus majestueux des deux chênes, Nicolas, les bras croisés, étudiait Egwen et les trois autres sœurs. Elle semblait prête à détaler à la moindre alerte.
« Je ne sais pas ce qu'Areina vous a extorqué, »
dit Egwen, très calme.
« Mais les cours particuliers de Nicolas prennent fin aujourd'hui. »
Mirel et Nisao sursautèrent. Siouan elle-même écarquilla les yeux. Mais pas assez longtemps pour que les autres s'en aperçoivent.
« Tu sais vraiment tout, »
soupira Mirel.
« Tout ce que veut Areina, c'est rester à proximité de l'âne. Parce qu'il peut lui apprendre des choses très précieuses pour une quêteuse. Parce qu'elle s'imagine qu'il se lancera dans la quête avec elle. « Nicolas veut devenir une autre Karaigan, »
ironisa Nisao.
« Ou une seconde Moiraine. Elle espère pouvoir convaincre Mirel de lui transmettre le lien de l'âne. Misère. Au moins maintenant que le secret est éventé, nous allons pouvoir traiter ces deux femmes comme elles le méritent. « Quoi qu'il m'arrive, je serai ravi de savoir qu'elles regretteront leurs actes jusqu'à la fin de leur vie. »
Siouan comprit enfin ce qui s'était passé, et elle jeta à Egwen un regard indigné. Parce que Nicolas et Areina avaient fait chanter des Aes Sedai ? Probablement pas. En revanche, parce que quelqu'un avait saisi quelque chose avant elle. Quant au chantage, après tout, Nicolas et Areina n'étaient pas des Aes Sedai. Aux yeux de Siouan, ça devait changer pas mal de choses, au sujet du châtiment qu'on pouvait leur infliger. Et toutes les sœurs réagiraient ainsi. Tous les regards étant rivés sur elle, aucun n'ayant quoi que ce soit d'amical, Nicolas recula, jusqu'à ce qu'elle soit contre le tronc du chêne. Et là, elle sembla essayer de reculer encore. Revenue au camp, elle aurait pas mal d'ennuis à cause de toutes ces taches sur sa robe blanche. Toujours occupée avec Mandarb, Areina paraissait encore inconsciente de ce qui l'attendait.
« La justice voudrait que ces deux-là soient sévèrement punis, »
dit Egwen.
mais pas avant que vous ayez été toutes les deux châtiées comme il convient. »
Plus personne ne s'intéressa à Nicolas. Mireille roula des yeux ronds comme des soucoupes, et Nissao réussit à faire mieux, des assiettes à quelque chose près. Aucune n'osa ne serait-ce que grincer des dents. Xuan buvait du petit lait. À ses yeux, les deux sœurs ne méritaient aucune pitié. De toute façon, Egwen n'avait aucune intention de se montrer clémente.
« Nous parlerons de tout ça plus tard, quand je reviendrai, »
dit-elle, alors que Lan sortait de la tente. Une veste verte couverte sur une chemise elle-même délacée, le champion portait son épée à la taille, et il avait jeté des sacoches de sel sur son épaule. Sa cape caméléon aux couleurs fluctuantes fit cligner tous les yeux sur son passage. Laissant Mireille et Nissao bouillir dans leur jus, Egwen se dirigea vers Lan. Si la température du chaudron baissait, Xuan ne manquerait pas de ranimer le feu.
« Lan, je peux te conduire à Eboudar bien plus vite que ça, »
dit Egwen. Le champion acquiesça impatiemment, puis il fit signe à Areina de lui amener Mandarbe. Cet homme était angoissant, comme un volcan susceptible d'entrer en éruption à tout moment, ou comme une avalanche prête à se déclencher. Egwen ouvrit un portail de 8 pieds sur 8, à l'endroit où Lan s'était entraîné à l'épée. Elle franchit le seuil et se retrouva sur une sorte de bac flottant dans des ténèbres infinies. Pour planer, il fallait une plateforme, et chaque sœur avait ses préférences. Le bac de bois, doté de solides garde-fous, était idéal pour Egwen. Si elle tombait, elle pouvait bien entendu créer un bac sous le premier, mais elle n'aurait alors plus aucune garantie sur sa destination. Pour quelqu'un qui n'aurait pas su canaliser, une telle chute aurait été aussi infinie que les ténèbres environnantes. Un peu de lumière brillait au bout du bac. Vu de l'autre extrémité, ça donnait une vision un peu écrasée de la plateforme, car cette lumière ne pénétrait pas dans les ténèbres. Parfois, elle existait, permettant à Egwen d'y voir presque aussi clairement qu'en Telaran Riod. Pour la énième fois, elle se demanda si elle n'était pas dans une région très particulière du monde des rêves. Tenant Mandarbe par la bride, Lan n'attendit pas d'y être invité pour entrer. Il procéda cependant avec une grande prudence, étudiant le portail puis la plateforme, dont les planches de bois émirent un son creux sous les sabots de l'étalon.
« Dans combien de temps, Eboudar ?»
demanda simplement le champion.
« Pas Eboudar !»
répondit Elaine, en canalisant pour refermer le portillon du bac et le portail.
« Nous n'arriverons pas en ville. »
Rien qu'on eût pu voir ne bougea. Il n'y eut aucun courant d'air, pas la moindre sensation de se déplacer. Pourtant, le bac bougeait. Il accéléra, atteignant une vitesse qu'Egwen n'aurait pas cru possible. Mais après tout, ils avaient dans les 250 lieues à parcourir.
« Je peux te déposer à 5 ou 6 jours de cheval, Eboudar. »
Egwen avait vu le portail qui séparait Lane et Nineveh quand elles étaient parties pour le sud, en voyageant dans leur cas. Elle s'en souvenait assez pour planer jusque-là. Lan scruta les ténèbres, comme s'il pouvait apercevoir leur destination. On eût dit une flèche encochée dans un arc.
« Lan, Nineveh séjourne au palais Tarasin, invitée de la reine Tailin. Elle peut ne pas vouloir admettre qu'elle est en danger. »
C'était même très probable. Étant donné le caractère avenant de l'ancienne sage-dame, elle risquait de s'exprimer assez vivement. À juste titre, il fallait l'admettre.
« Ne te formalise pas de ce qu'elle dira. Tu sais comment elle est, mais n'en tiens aucun compte. Le cas échéant, protège-la sans qu'elle s'en aperçoive. »
Le champion ne dit rien et ne regarda même pas Egwen. À sa place, elle aurait eu des centaines de questions à poser.
« Quand tu la retrouveras, dis-lui que Mireille compte lui transmettre ton lien, dès que l'occasion se présentera. »
Egwen avait songé à communiquer elle-même cette information à Nineveh, mais il lui avait semblé préférable qu'elle ne sache pas que Lan arrivait. Aussi amoureuse de lui que
moi de Gawain, oui.
Follement éprise donc, Nineveh, si elle savait, risquait de ne plus penser à autre chose. Avec la meilleure volonté du monde, elle ne pourrait pas s'empêcher de laisser toute la responsabilité des recherches peser sur Elaine. Oh, elle ne se mettrait pas à rêvasser du matin au soir, mais elle n'aurait plus l'acuité visuelle requise pour remplir sa mission.
« Tu m'écoutes, Lan ?»«
Le palais Tarasin, invité de la reine Tailin, peut nier être en danger. Comme si je ne savais pas déjà que c'était une tête de pioche. »
Lan regarda enfin Egwen, qui le regretta presque. Alors qu'elle était emplie de Saïdar, ivre de joie, de chaleur et de sentiments de puissance, il y avait dans le regard froid de cet homme quelque chose qui semblait nier la vie. Des yeux terrifiants, on ne pouvait pas les qualifier autrement.
« Je lui dirai tout ce qu'il faut qu'elle sache. Tu vois ?» J'ai été attentif. »
Egwen se força à soutenir le regard de Lan sans tressaillir, mais il se détourna de nouveau. Sur son cou, elle remarqua quelque chose qui pouvait fort bien être une morsure. Devait-elle lui conseiller de ne pas être trop explicite sur sa relation avec Mireille ? Cette idée la fit rougir. Pour penser à autre chose, elle essaya de ne plus voir la marque. Mais bien entendu, une fois qu'elle l'avait repérée, ça se révéla impossible. L'âne ne serait pas assez idiot pour tout dire. Si on ne pouvait pas attendre d'un homme qu'il soit très malin, personne ne pouvait se montrer stupide à ce point. Le bac continua à planer dans l'infinie obscurité. Et Gwen ne redouta pas un instant l'apparition soudaine d'un rejeté ou de quiconque d'autre. Cette façon de se déplacer n'était pas dépourvue de bizarreries, certaines renforçant l'efficacité et l'intimité de l'opération. Si deux sœurs ouvraient un portail au même endroit à quelques minutes l'une de l'autre, avec la même destination en tête, elles ne risquaient pas de se voir pendant le voyage. Sauf s'il s'agissait très exactement du même point de départ, avec des tissages parfaitement identiques. Le genre de condition très difficile à réaliser quand on le voulait, alors, par hasard. Après un certain temps, moins d'une demi-heure, aurait estimé Gwen, même si c'était difficile à évaluer, le bac s'arrêta brusquement. Rien d'objectif ne l'indiqua, pas même dans les tissages qu'entretenait la jeune femme, mais elle sut que sa plateforme avait cessé de bouger. Ouvrir un portail à la poupe de la barge étant des plus hasardeux, sur le plan de la destination, Mogadienne elle-même s'était montrée effrayée par cette possibilité, et Gwen en tissa un à la proue, et fit signe à l'âne de passer le premier. En effet, la plateforme existait uniquement quand elle était dessus, un autre point commun avec le monde des rêves. L'âne ouvrit le portillon du bac et sortit avec Mandarbe. Quand Egwen émergea à son tour du portail, qu'elle laissa ouvert en vue de son voyage de retour, elle vit que le champion était déjà en selle. Dans toutes les directions, des collines verdoyantes moutonnaient à l'infini. Pas un seul arbre en vue, et seulement de très rares buissons. Piaffant d'impatience, Mandarbe raquait le sol avec ses sabots, soulevant de petites volutes de poussière. Dans le ciel sans nuages, le soleil matinal tapait encore plus fort qu'au Murundi. Au sud et à l'ouest, des vautours à larges ailes tournaient en rond au-dessus de points précis.
« L'âne !»
commença Egwen, désireuse de revenir sur ce que le champion devrait dire à Nineveh. Mais elle n'eut pas l'occasion d'aller plus loin.
« 5 ou 6 jours, as-tu dit ?»
coupa l'âne, les yeux braqués sur le sud.
« Je peux faire plus court que ça. Nineveh sera en sécurité. Tu peux me croire. »